Vous écoutez France Musique.
Bonjour et bienvenue. Bonjour Vivica Geno.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on dit, Vivica Geno ou Vivica Geno?
Ou en espagnol, Vivica Genaux.
Non, j'irai pas jusque-là. Bon, alors on va en rester à Vivica Geno.
Merci.
Alors, on sait que vous êtes, comme toutes les chanteuses d'opéra, intéressées par l'Italie. Et je crois que dans votre code génétique, il y a un compositeur qui a eu une grande place. Peut-être un peu moins maintenant, c'est Gioachino Rossini.
Oui, c'est vrai, j'ai commencé en chantant seulement Rossini les premières 3 ans de ma carrière, c'est vrai.
Eh bien voilà du Rossini en dialecte vénitien. Anzoletta Copassa la Regata, c'est Christa Ludwig avec Gérald Moore. Alors, moi j'étais très perplexe quand j'ai regardé le libretto de ce disque, parce que le libretto est en vénitien.
En vénitien, oui. Mais elle chante en italien.
Mais elle chante en italien.
Ouais.
Alors c'est pour ça que je ne comprenais pas le rapport qu'il y avait entre les deux. Heureusement que vous êtes là et que vous connaissez bien tout ça. est-ce que vous parlez, Vivica Geno, le dialecte
non,
vénitien?
Non, je parle pas. J'ai la cadence. Quand je parle en italien, on me dit tout de suite qu'on sente la cadence vénitien. Mais non, en vénitien, c'est pas sono qua, c'est ise qua. Ise qua.
Oui.
Ise qua. Ise qua.
Ça s'écrit X-E. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette regatta veneziana?
C'est une. Ils font plusieurs regattas toujours à Venise et on voit 1000 bateaux sur l'eau qui font la gare, qui font, non, pas la gare, mais en italien, la gare, en français, qui font la concurrence, non?
Une régate.
Oui, une régate.
Oui.
Et oui, il parle de Anzoletta, qui regarde son amoureux, Momolo,
oui.
C'est, qui, comment dit-on,
qui rame.
Qui rame, ecco.
Oui.
Et alors, le premier, il commence, elle est tellement nerveuse. Et puis, la deuxième, c'est pendant le cours.
Oui. Voilà.
Et puis, la troisième, il a vaincu. Alors, elle est très contente et il va gagner en...
va gagner son cœur.
Un bisou.
Va gagner son cœur. Voilà, c'est ça.
Oui.
Alors, ça, c'était vos premières amours musicales. Et j'ai lu dans, on reviendra sûrement à Rossini, j'ai lu dans un entretien déjà ancien qu'il y avait des moments où vous n'êtes pas fatigué, vous, de Rossini, mais votre voix, il lui arrive d'être fatigué de Rossini.
Mais non, je ne sais pas. C'était les autres qui m'ont dit, après 3 ans, et avec raison, qu'il faudrait
aller ailleurs.
Il faudrait trouver des autres compositeurs. Il ne peut pas faire une carrière entière basée sur les 3 rôles comiques de Rossini. Et puis moi aussi, j'étais fatiguée de Rosina. J'avais lu quelque chose quelque part de Cecilia Bartoli qui disait qu'elle n'avait pas, elle avait plus envie de chanter Rosina. Elle avait fait, je crois, plus que 300 fois. Et moi, à l'époque, j'ai pensé, non, mais je ne serai jamais fatiguée de chanter Rosine, de chanter Rossini. Non, ça n'existe pas. Quand je suis arrivée à 150 spectacles de Barbieri di Siviglia, j'ai dit, c'est assez. Je ne suis même pas arrivée à 300. Mais c'est le cas de Rosina, parce que je trouve que des héroïnes de Rossini, elle est la plus faible. Parce qu'elle commence avec Una voce poco fa en disant qu'elle va tout faire pour se lier avec son amoureux, avec Lindoro. Mais le moment quand il arrive le baryton, Figaro et le ténor, elle reste là, elle regarde, elle ne fait plus rien.
Bon.
Alors pour moi, dans l'opéra, c'était un peu... J'ai envie d'être avec les autres et de travailler avec les autres, pas toujours regarder que les
Alors,
autres
s'organisent. Alors maintenant, on écoute quelque chose qui va faire hurler quelques-uns de nos auditeurs. C'est 2 fois la même chose, mais d'abord par un homme et ensuite par une femme.
Ah bon ?
Alors on écoute. Della principessa fui solo defensor, ma non amante. Oh, L'air d'Orlando de Handel au premier acte. Ici, c'était Marilyn Horne avec les Solisti Veneti de Claudio Scimone. Et auparavant, c'était précédé du récitatif Bejen Meta avec Freiberger Baroque Orchester sous la direction de René Jacobs. Alors, c'est un vrai plaisir de vous entendre, ou de vous regarder plutôt, de vous regarder quand quelqu'un d'autre chante, parce que vous connaissez ce rôle par cœur. Et d'ailleurs, on entendra cet air dans l'émission de François-Xavier Chemchak cet après-midi. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire que l'on puisse faire avec une même musique deux choses aussi différentes, un contre-ténor et une mezzo colorato?
Ben, je trouve, alors, comme mezzo-soprane, mais légère,
oui.
Légère, pour moi, c'est très intéressant d'écouter les contre-ténors et je trouve que Bejen Meta est incroyable, ce qu'il fait avec René, c'est magnifique. Parce que moi, dans cette ère-là, j'ai toujours envie d'avoir la voix plus grande comme celle de la Marilyn Horne. Parce que j'ai toujours envie de vraiment combattre avec la voix. Mm-hmm. Mais j'entends dans les voix des contre-ténors, ils utilisent les mots mm-hmm. pour illustrer le concept de l'air.
Ouais.
Et soit la grandesse de la voix. Et ouais. C'est ça que je devrais apprendre à faire mieux. Mais en même temps, j'aimerais, et j'ai dit aussi sous des autres émissions, j'aimerais dans ma prochaine vie avoir la voix de Marilyn Horne ou de quelqu'un avec la voix grande comme
gigantesque.
Ça. Oui, ça doit être trop amusant, avoir la voix comme ça. Et alors, non, le contraste, je comprends qu'il y a toujours un public qui aime les œuvres de baroque chantées par contre-ténor et c'est qu'ils aiment les mezzo-soprane. C'est vrai que normalement, la voix du mezzo-soprane a les graves plus forts, plus puissantes. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi dans la couleur de contre-ténor. Pour moi, j'aime surtout la voix de contre-ténor dans les airs de douleur, des ombres.
Les airs élégiaques, oui.
Oui, parce que je me souviens, la première fois que j'ai entendu un sopraniste, c'était Robert Crowe à Berlin. Je ne connaissais pas du tout la voix de contre-ténor. Et c'était dans l'opéra Soliman de Haas, je lui parle toujours.
Mais... On va venir à Haas tout à l'heure,
oui,
je vous promets.
Oui, je sais. Mais je me rappelle... La première note qu'il a chantée avec le flûte, parce que c'était un air avec flûte, oui. Il est entré avec la voix, on n'a presque pas pu percevoir
si c'était la flûte ou le chanteur.
Oui, entre la voix et pendant les spectacles, on a changé aussi. On a eu les sopranes qui ont chanté le rôle. C'était jamais la même chose.
Mais alors, c'est ça qui est bien, que ce soit jamais la même chose.
Oui, et puis, entre les mezzo-sopranes, il y a plein de différences aussi entre les contre-ténors. On ne trouve jamais la voix pareille, justement. C'est toujours...
Alors, l'opéra, c'est évidemment de chanter son rôle, d'essayer, de réussir, de ne pas réussir, mais c'est aussi d'avoir des partenaires. Alors, j'ai envie de vous faire entendre un duo que je trouve très craquant. C'est emprunté à Rossini, évidemment. Il y a une soprane et une mezzo.
Thank you.
Ce qu'il y a de plus beau, n'est-ce pas, Vivica Genot, c'est la fin, non? Quand tout
d'un coup, ça n'arrête plus.
Ça s'arrête plus, mais il faut bien s'arrêter quand même. C'était de la petite messe solennelle de Rossini, le Quitolis Peccata Mundi. Lucia Pop était la soprane et Brigitte Fassbender était la mezzo. Katia et Marielle Labeck au piano et David Brix à l'harmonium. Vous avez chanté ça?
Non, j'ai jamais chanté. J'aurais. Ça fait longtemps aussi que je n'entends pas. Et j'aurais envie, oui, de le faire une fois. J'ai chanté le Stabat Mater de Rossini et j'ai pas donné mon mieux, mais bon.
Le Stabat Mater, oui, c'est avec orchestre,
oui,
ça.
Oui, c'est avec orchestre.
Et il y a quatre
et
solistes.
Chœurs, et, ouais. Ça, ouais. Et c'est tout autre chose que ça. Non, j'aimerais bien.
C'est le genre monumental, le Stabat
oui,
Mater.
Oui, non, c'est énorme, c'est très très beau et non.
Tandis que ça, c'est pour faire dans un salon. Cette musique-là.
Oui, c'est magnifique. Et pour aussi, on n'a pas très souvent la chance de travailler avec les collègues dans cette intimité.
Voilà,
non
c'est ça qui est surprenant. Oui. Dans l'opéra, il y a des voix qui se mélangent bien
oui.
Et des voix qui ne se mélangent pas. Ça tient à quoi? C'est mystérieux, non?
Il y a les vibrations qui ne sont pas toujours compatibles. Mais il faut chercher dans l'opéra à se trouver avec les voix aussi. Et normalement, ça marche. Mm-hmm. Mais oui, c'est ça le travail de directeur artistique, de trouver une distribution qui peut chanter bien ensemble.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui, étant donné qu'il y a tant d'opéras dans le monde, de trouver des distributions où les gens qui ne se connaissent pas forcément arrivent et puis tout d'un coup, il faut y aller, on trouve. On doit trouver ça, c'est facile.
Ça arrive toujours quand on fait des opéras qui sont en répertoire. On a 4 jours pour préparer tout, la mise en scène et tout. Et on connaît ses collègues, c'est pas nécessairement qu'on les connaît déjà. Non, ça arrive chaque jour, ça.
C'est terrible.
C'est pas terrible. Au début, c'était plus difficile pour moi parce que j'avais envie de savoir pourquoi le mise en scène s'était fait comme ça. Et normalement, on travaille que avec des assistants. Normalement, le metteur en scène n'est pas là. Et c'est difficile d'avoir des réponses. Mais connaître des collègues nouvelles, c'est toujours fascinant et voir ce qu'ils font. Et puis de créer le personnage dans l'instant. Sur scène avec eux. Ça change complètement pour toutes les fois que j'ai chanté Cenerentola, par exemple. C'est toujours avec une équipe différente. Et ça change ton interprétation aussi, même quand le ténor te dit quelque chose dans un certain mode. On a envie de lui répondre différemment que l'autre soir, qu'on a travaillé avec quelqu'un d'autre.
Sauf s'il est très gros, très vilain, s'il pèse 200 kilos.
Non, ça arrive aussi. Non, ça arrive, mais ça existe dans le monde aussi. Ça, je comprends pas pourquoi sur scène et dans les films maintenant, tous doivent être beaux et belles. Parce que c'est pas comme ça dans la vie. Je connais plein de couples qui sont pas les plus beaux du monde, mais ils s'aiment, ils se aiment.
Et
ils ont une très très belle vie, ils ont une histoire d'amour
c'est ce que disait
important.
Brigitte Fassbender disait cette tyrannie de la jeunesse aujourd'hui, c'est terrible parce qu'elle dit je pense qu'aujourd'hui une chanteuse magnifique comme Margaret Price ne ferait pas carrière à cause de son physique.
Voilà. Ne résiste pas. Non, c'est ça, c'est exact, ça, c'est vrai. Il y avait, je crois aussi, Andreas Scholl qui disait c'est étrange comme c'est toujours le genre beau qui dit que ce n'est pas important d'être belle dans la vie. Mais bon, ça peut-être c'est vrai aussi, mais bon.
Votre rire nous indique qu'il n'y a pas de problème. Nous allons entendre maintenant un compositeur qui est devenu un de vos grands hommes. Je crois que c'est lié à René Jacob, c'est Hasse. Alors, comme le jeu ce matin, c'était de ne pas vous entendre chanter, mais d'entendre chanter vos camarades, on va donc entendre un air d'Il Trionfo di Clelio de Hasse et ses Bejan Meta.
Oh.
Thank you.
C'est bien parce que c'est Bejun Mehta qui chante, mais c'est Vivi Cageno qui fait l'opéra devant moi. C'est extraordinaire, je vous assure. Alors, vous disiez tout à l'heure, Vivica, que les contre-ténors, vous les aimiez mieux dans les airs élégiaques. Et ici, cet air de Johann Adolf Hasse, c'est un air qui s'appelle « Dei di Roma a perdonate » et c'est extrait du triomphe de Clélia, et pas Clélio, comme
non,
j'ai dit.
Clélia, ouais.
Heureusement que et Xavier, bon. Notre ange gardien, est là, qui surveille. Merci Xavier pour les bêtises que j'ai pu dire. J'en ai pas encore trop dit, mais ça va sûrement venir.
On a encore temps.
Alors, ce qui est très beau là-dedans, vous disiez tout à l'heure, Vivica Geno, que vous aimiez les contre-ténors dans tout ce qui était élégiaque.
Oui, surtout. Oui, parce qu'ils ont une couleur qui, nous, mezzo-soprano, normalement, on n'arrive pas à donner avec la voix. Notre voix, c'est un peu plus... Normalement, hein, on ne peut pas parler pour tous, mais... Et un peu plus pleine. Et dans les contre-ténors, ce que j'adore, c'est la facilité avec la voix très très fine et angélique.
Ben c'était des drôles d'anges quand même, les castrats. C'était des anges.
Les pauvres.
Bon, alors là, c'était plutôt peut-être pour Madame Bordoni que Hasse a écrit ça. Comment vous avez découvert Hasse ?
Alors.
René ?
Non, c'était pas. J'avais découvert un an avant. Parce que j'ai déjà raconté aujourd'hui, je pense, mais bon, que j'ai fait les premières 3 années de ma carrière en faisant chœur au ciné. Oui. Alors, on m'a dit qu'il faisait trouver quelque chose d'autre à chanter. J'avais pas envie de chanter Mozart parce que c'était un peu trop aigu pour ma voix, autant.
Oui, vous avez dit à plusieurs reprises que vous aimiez mieux l'alto dans le quatuor à cordes et pas le deuxième soprano.
Oui, c'est ça. Et j'ai juste débuté mon premier rôle de Mozart en janvier-février en Espagne. J'ai fait la Clemenza di Tito. J'ai chanté Sesto pour la première fois et c'était génial, mais je suis... vraiment heureuse d'avoir attendu parce que j'ai plus facilité maintenant dans sa tessiture de la voix. Mais Hasse, alors j'ai parlé avec Matthew Epstein qui était agent et il était devenu directeur artistique de Chicago Opéra. Et il m'a dit, je lui ai expliqué ma situation, il m'a dit il faudrait que tu chantes Hasse. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et alors, il m'a expliqué que c'était un des compositeurs plus importants de 1700e. Et 1800e, on dit en français.
Ottocento.
Dell'Ottocento, ecco. Esatto. Et alors, après ça, un mois après, j'ai eu l'invitation de faire l'audition pour René Jacobs à Berlin. Et je ne sais pas encore aujourd'hui si c'était Matthew Epstein qui lui a dit de moi quelque chose ou non. Mais en tout cas, je suis allée, ils m'avaient envoyé 2 airs de Hasse pour l'opéra de Solimano à préparer. Et j'avais porté aussi un air de Malcolm de La Donna del Lago di Rossini. J'ai fait l'audition et c'était un des 2 fois dans ma vie entière où m'ont donné le contrat
tout de suite.
Au lieu. Oui, tout de suite. Et j'avais 1 an pour me préparer avec ma prof du chant. Et quand je suis arrivée, le premier jour, j'ai travaillé depuis 9 heures, je crois, avec René pendant 3 heures.
Oui.
Sans pause, sans rien. J'étais heureuse. C'était incroyable. C'était quelque chose de... J'avais jamais senti quelque chose comme ça, l'énergie qu'il me donnait. Et puis aussi, ce son, que pour moi, c'était complètement nouveau. J'avais jamais entendu sonner, jouer au cembalo, même plus, même pas. Et en travaillant, on a travaillé tous les 8 airs de Solimano, de Selimo. Je suis tombée amoureuse complètement de la musique de Hasse, de baroque entière, c'était clair. Alors, c'est commencé
alors,
là-bas.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que dit René Jacobs dans son texte sur la voix de contre-ténor. Il dit qu'au fond, tous ces gens, tous ces compositeurs étaient eux-mêmes chanteurs.
Oui.
Et qui savaient exactement que si on mettait telle voyelle ou telle consonne à tel endroit dans tel registre, ça sonnait ou ça sonnait pas.
Mais même Verdi était très, très concentré sur le livret. Il a changé plein de choses parce qu'il a dit non, ces voyelles-là, ça ne passe pas avec cette note, alors il faut changer.
Et Richard Strauss aussi, avec Offenstahl.
Oui. Et c'est très important, la connaissance de la voix. Et c'est ça que c'est difficile à trouver aujourd'hui, des compositeurs qui ont passé vraiment le sentier de chanteur. Et on sent ça dans la musique, comme chanteuse, je dis. Parce que j'ai fait aussi beaucoup de musique contemporaine dans ma vie. Et on le sent dans la voix, si elle écrit pour piano et puis passer à la voix. S'il est écrit pour clarinette et passé à la voix. Et on sent aussi dans les morceaux de Pauline Viardot, qui est là, elle a fait des chansons sur les mazurkas de Chopin. On sent que ce n'était pas écrit pour la voix, c'était écrit pour piano et puis traduit pour la voix. Mais ce n'est pas la même chose.
C'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce que Bejan Mehta, qui a fait l'opéra de George Benjamin sur un texte de Martin Crimp, eh bien, George Benjamin, pendant qu'il écrivait, il avait le texte. Ensuite, il a fait venir les chanteurs, il leur a dit ça, on peut ou on peut pas. Qu'est-ce que ça donne si je mets cet instrument dessous? Est-ce que ça aide ou au contraire, est-ce que ça vous gêne? Donc, il y avait cette idée que jusqu'au 19e siècle au moins, les compositeurs étaient aussi parfois chanteurs, pianistes. Et puis, à partir du moment où chacun a dû être obligé d'avoir un métier différent, on était chanteur, ou on était chef d'orchestre, ou on était pianiste, ou on était violoniste. Il y a toute une chose qui est plus difficile peut-être.
Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui un peu, la possibilité de changer des choses. Parce que dans le temps de Handel, par exemple, il existe plusieurs versions de la même air.
En fonction de la chanteuse ou du
chanteur. Oui, ils ont changé des choses. Et aujourd'hui, c'est comme la constitution des États-Unis. Il ne faut pas changer un mot. Oh, il ne faut pas. Et alors, non.
Nous, on la change ici de temps en temps. Tout petit peu.
Okay. Alors, vous avez le droit alors.
Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que malgré tout, il y a, on en parlera peut-être un peu plus loin, des compositeurs qui écrivent pour des chanteurs. Je vous parlerai de quelqu'un que j'ai bien connu, qui est Henri Ledroit, tout à l'heure. Si on arrive, parce que j'ai l'impression qu'on a de quoi faire 8 jours d'émission par rapport à ce qu'on a préparé. Alors, ici, maintenant, on écoute une dame, on va changer, qui chante en français de la musique française, écrite par un compositeur qui n'était pas français, mais qui a fait toute sa carrière en France, et qui est Reynaldo Hahn.
Thank you.
Reynaldo Hahn, Si mes vers avaient des ailes, sur un poème de Verlaine, et Susan Graham est accompagnée par Roger Vingold. Alors, ce musicien qui était devenu français, puisqu'il a vécu quasiment toute sa vie en France, et il était lui-même chanteur. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre du français chanter? Est-ce que vous aimez chanter le français? Parce que vous le parlez rudement bien.
Merci.
Mais si, c'est vrai. Et vous riez très bien aussi en français.
Alors, j'ai chanté un peu en français. J'ai jamais chanté Reynaldo Hahn. J'aimerais bien voir.
Mais par exemple, les grands mélodistes français, Ravel, Debussy.
Non plus, parce que. Alors, quand j'étais étudiante, j'ai étudié pas mal de Fauré. Mais maintenant, je suis amoureuse de Pauline Viardot, les compositions de Pauline Viardot.
Oui, j'ai entendu dire ça.
Oui, elle a écrit beaucoup en français aussi. Alors, j'ai fait un programme il y a un mois et j'ai eu l'aide de mon prof de français ici à Paris, qui est venu chez nous en Italie pour m'aider. Et c'était aussi intéressant de travailler sur la langue, parce que c'est plus différent, je trouve, chanter en français et parler que la différence entre chanter et parler en italien.
Évidemment.
Ça paraissait beaucoup plus.
C'est ce qui paraît si étrange quand on est soi-même français et que tout d'un coup on commence à parler une langue avec des accents. Par exemple, moi j'ai fait des études de russe. Quand on commence à apprendre une langue avec des accents, on se dit mais que le français est une langue impossible à chanter. Parce que c'est
difficile. Voilà. Et puis, mais aussi, l'italien a des voyelles ouvertes,
oui, et puis des accents
et fermées.
Oui, mais en français, il y a des choses terribles comme des « un », des « en », des « on ».
En russe, on a « m'groa », la « l » derrière.
Oui, mais
la
ça,
bouche.
Il suffit de mettre la voix un peu... Mais il y a des accents en russe. En français, il n'y a pas.
Oui, c'est ça. C'est différent aujourd'hui parce que j'ai entendu à Rouen qu'on a la tendance maintenant d'utiliser la R. La R.
Oui, c'est
qu'on
une
avait
révolution.
Pas,
on n'avait pas le droit
avant.
Il fallait faire rrr. Alors, quand on chante
italien.
Des opéras baroques, ça donne la moule triomphe. Mais on ne fait plus ça. On a le droit.
Moi, j'aimerais plus. Alors, il y a des chansons de Viardot où ça me vient naturellement de faire la R, la R.
Mais elle avait une technique de son père qui était.
Oui, mais de la salle, j'ai entendu.
Ah oui.
On entend mieux la R italien que la R français, je trouve. Je pense toujours à Edith Piaf ou Mireille Mathieu quand j'entends le R comme ça chanté dans la musique classique. Alors ça, c'est difficile parce que aussi, quand on chante dans les aigus aussi, c'est plus difficile à réaliser. Et puis, oui, il faut prêter attention à tous les voyelles. Mamma mia, oui, c'est dur.
Bon, eh bien, vous allez continuer, j'imagine.
Oui.
Alors, ça, c'est un souhait que vous avez eu et souhait que je partage parce que je trouve que c'est la plus belle version qui existe au disque de ceci.
Thank you.
Le quatrième et avant-dernier mouvement de la deuxième symphonie Résurrection de Gustav Mahler, c'est Christa Ludwig, on la reconnaît tout de suite, avec les Wiener Philharmoniker sous la direction de Zubin Mehta. Je crois que c'est la plus belle version de cette symphonie que je connaisse.
C'est incroyable.
Alors, vous avez chanté ça? Vous avez envie de chanter ça?
Pour moi, je n'ai pas le droit de chanter ça.
Pourquoi?
Non, il faut avoir la voix comme la Ludwig ou quelque chose pour chanter ça. Et on a besoin de la somptuosité de la voix pour le remplir. Mais j'ai tous les droits du monde de l'écouter.
Et vous le connaissez par cœur, apparemment.
Oui,
je vous regardais.
Je connais.
Vous avez entendu Christa Ludwig dans cette musique?
Jamais vive, non. Jamais live, non. Mais je l'ai entendue sur la télé en faisant avec Leonard Bernstein, The Old Lady, dans Candide. Elle était fantastique. J'ai lu son livre aussi. Et je pense à elle chaque fois que je prends un avion. Parce qu'elle a dit qu'elle avait l'habitude d'étudier dans l'avion ses rôles, non, pour apprendre à mémoire. Mais elle avait toujours quelque chose dans le visage qui exprimait, non, alors le rage ou l'amour ou ça. Et alors, quelquefois, le hostess de l'avion est venu, Madame, est-ce que ça va? Ça va? Alors, elle a dit qu'elle a dû apprendre de pas faire voir sur le visage ce qu'elle avait dans la tête. Mm-hmm. Mais je pense à elle, parce que moi, très souvent aussi, dans l'avion, j'étudie. Alors, il faut rester très calme au dehors.
Oui, parce que dans les avions, ça devient des lieux dangereux.
Non, c'est dangereux, oui.
Bon, alors, on va continuer avec une chanteuse dont vous m'aviez dit, quand on a préparé, avec l'aide de Xavier, vous aviez envie d'entendre Teresa Berganza. Alors, on va l'entendre, vous allez évidemment reconnaître, et on va parler de ce personnage qui est tout à fait dans les très grands personnages d'opéra. Bien l'autre Carmen, Teresa Berganza, les Ambrosian Singers et le London Symphony sous la direction de Claudio Abbado. Alors, je dois dire que quand j'ai préparé cette émission, je vous dis, je suis tombé dans le disque des airs pour Farinelli, j'écoutais ça en boucle, et puis tout d'un coup, j'ai regardé ce que Xavier m'apportait comme documentation, puis tout d'un coup, je vois apparaître Carmen. Alors moi, je vois Vivi Cageneaux comme une grande, belle jeune femme qui incarne des conquérants dans les opéras de Handel, de Hassé, enfin des personnages. Et tout d'un coup, j'apprends que vous avez chanté Carmen.
Oui, à Rouen, il y a 2 ans maintenant.
Alors, c'est quoi Carmen pour chanter en français pour vous? Et puis ce personnage qui a... dont on fait souvent des incarnations qui sont un peu fausses, un peu, comment dire, vulgaires, un peu, comment dire, c'est pas ça. Quand on lit la nouvelle de Mérimée, Carmen est une femme extraordinairement, comment dire, qui sait ce qu'elle veut, qui a les moyens et qui n'a pas peur de mourir.
Elle est très jeune aussi dans,
oui,
dans
absolument.
La nouvelle de Mérimée.
Absolument.
Aussi.
Absolument.
Oui, il y a plein de différences entre l'histoire de l'opéra et l'histoire originale. Mm-hmm. Alors, c'est-à-dire que j'ai les cheveux noirs, je suis mince et j'ai un peu le visage d'un Espagnol au Méditerranée. Alors, ça fait 22 ans qu'on m'a invité de chanter Carmen et je trouve que c'est plus ou moins la même chose. Les sopranes japonaises ou chinoises doivent chanter Madame Butterfly. Alors, c'est pas...
Bon, c'est une drôle de raison.
C'est horrible, non?
Et vous avez chanté la version avec les récitatifs en français?
En français, oui, parler. Oui, alors j'ai toujours dit de non, mais en même temps, j'avais toujours envie de lui chanter. Alors, j'ai entendu 20 ans et... Puis à la fin, m'arrivait l'invitation de la part de l'Opéra de Rouen, de Normandie. Et ça me semblait la situation parfaite pour essayer. Parce que l'approche, c'était plus d'une façon théâtrale que de la musique. Ce n'était pas la grande opéra. Carmen, c'était le théâtre musical. Et puis aussi, je voulais, en tout cas, faire les récitatifs parler parce que ça fait... baisser un peu le niveau de son.
Oui.
On ne monte pas toujours dans les récitatives accompagnés par l'orchestre. Alors, ça donne... Parce que moi, je n'ai pas la voix énorme, comme on sait. Et alors, ça donne au public, aux oreilles des publics, de baisser un peu le volume en tout. Et puis aussi parce que,
peut-être,
j'aime le personnage de Carmen.
Peut-être dans un théâtre comme le théâtre de Rouen, c'est faisable. Ce serait idéal pour l'opéra comique, Carmen. Et
oui,
que maintenant,
peut-être.
On fait ça dans des espèces de grandes gares.
C'est ça, c'est ça. Mmh. Mais pour moi, c'est toujours la même situation. Pour moi, Giulio Cesare et Old Metropolitan, c'est pas possible. C'est pas possible dans la version grand opéra qu'on a aux États-Unis. Mmh. Je l'ai fait. Mmh. Grâce à l'opéra Washington DC, je l'ai fait, mais c'est pas fait pour moi. Je dois le faire dans la version plus petite et originale. En tout. Aussi, quand je chante El Amor Brujo, j'adore la version avec le Chamber Orchestra plus petite.
C'est la version originale.
Originale.
Oui, absolument.
Oui. Alors, c'est la même chose. Avec,
c'était fait pour une cantaora. C'était une chanteuse de canterondo.
Mon ami Carlos de Aragon, qui va m'accompagner dans le récital cet après-midi, il a dirigé à Madrid maintenant avec un cantaora original à Madrid, El Amor Brujo. Et ça devait être quelque chose d'extraordinaire.
C'est tout à fait extraordinaire, justement, ces musiques qui ont l'air d'être des musiques avec pas la technique classique, mais il y a quand même la technique classique dans Carmen.
Oui, en tout cas.
Ah ben oui.
Et puis, j'ai lu un peu sur cette version de la Berganza. Elle a dit qu'elle a pensé, ou elle a parlé aussi avec un ami à moi, en disant qu'elle a toujours pensé comme Zarzuela, comme comédie musicale.
Oui, hein.
Et alors, plus léger. Et si j'avais la possibilité de le chanter encore, parce que la première fois, c'est toujours une naissance, le rôle, la prise de rôle. Et alors, il faut puis après la maturer, digérer un petit peu. Et j'aimerais le refaire en faisant un peu plus légère avec la voix, me donnant la possibilité d'allégérer.
Et est-ce que vous avez, parce que je crois que c'est un des rôles très physiques de l'opéra, est-ce que vous avez eu les conditions d'une mise en scène qui vous permettent de faire comme vous vouliez?
Complètement.
Ça, c'est précieux pour ce genre de rôle.
C'était incroyable. Ils avaient mis à disposition un coach pour la prononciation.
Oui.
J'avais le chorégraphe qui était toujours disponible pour travailler. J'étais presque chaque jour dans le théâtre, 10 ou 12 heures par jour, mais c'était ma choix que je voulais être là. Et les assistants aussi de mise en scène étaient là pour m'aider. Et puis aussi mon cast, Florian, le ténor, était laconique. Il était toujours disponible, m'a beaucoup aidé parce qu'il connaissait beaucoup mieux l'opéra. Il l'avait chanté plusieurs fois. Et même Luciano Acocella, le chef d'orchestre, était toujours là pour m'aider. Et on a travaillé aussi beaucoup sur la différence. On parle toujours de la musique espagnole, mais ça reste musique française.
Oh oui.
Et alors, il faut toujours être connaissant de ça, de chanter dans une façon espagnole, mais toujours rester dans le monde français, de musique française.
Alors, nous sommes sur France Musique, c'est le matin des musiciens, et nous sommes en compagnie de Vivica Génaud, dont vous vous apercevez qu'elle a plein de choses à dire sur la musique. Et alors, il y a des choses que je lui ai proposées, d'autres qu'elle m'a proposées, et elle avait envie d'entendre Anne-Sophie von Otter.
Oh.
Alors, j'ai choisi Anne-Sophie von Otter chantant du français et chantant Scheherazade de Maurice Ravel.
Wow.
Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est une œuvre que on peut faire si on est soprane. Moi, je connais le disque que tout le monde connaît de Margaret Price avec Abbado. Et ici, c'est Anne-Sophie von Otter qui est, je crois, on peut dire une mezzo.
Oui, elle est mezzo. Oui.
Alors, c'est ça la question, et la question du français. Et je vous propose donc d'entendre ce premier volet de Scheherazade. Anne-Sophie von Otter est accompagnée par l'orchestre de Cleveland sous les directions de Pierre Boulez.
Thank you.
Asie, le premier volet de Scheherazade de Maurice Ravel sur un poème de Tristan Klingsor, un nom impossible mais qui sent son Wagner. C'était Anne-Sophie Fonauteur avec l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez. Alors, je vous ai fait entendre ça, Vivica, parce que je suis émerveillée du français et de l'aisance dans toutes les nuances d'Anne-Sophie Fonauteur.
Elle est un artiste incroyable. Et ce que m'émerveille moi, c'est que dans sa carrière, elle a fait plein des choses,
oui,
mais complètement différentes.
Du baroque, de Offenbach, de la mélodie, du symphonique.
Et toujours réalisé et habité de son âme, non ? Elle habite ce qu'elle chante. Elle vive ça qu'elle chante. Non, c'est magnifique.
Je voudrais vous proposer quelqu'un que je crois vous ne connaissiez pas, vous n'avez pas pu l'entendre, puisqu'il est mort en 88. C'était Henri Ledroit, qui a été le grand haute-contre français. Ah, et non. Il se trouve que moi, je l'ai connu parce que j'ai écrit le texte d'un petit opéra pour lui qu'il avait fait et qu'il a un jour chanté en entier. C'était à peu près une heure. C'était pour haute contre, quatuor à cordes et 12 voix mixtes. Ouais. C'était l'histoire d'un repas qui se passait mal. Et j'aime beaucoup penser à ce que vous disiez tout à l'heure, Vivica, sur le fait que les contre-ténors sont dans le côté élégiaque, le côté amoureux, le côté... Et c'est un genre de voix que je ne trouve pas dans les contre-ténors d'aujourd'hui. Alors ici, c'est de la musique de Rossi. Luigi Rossi, Or guardate come va, par Henri Ledroit avec Matthias Speter au luth et au chitarrone. Alors voilà, je vous ai apporté ce musicien que j'ai adoré.
C'est un cadeau, merci.
Qui est malheureusement,
j'avais jamais entendu. Oui.
Malheureusement, il est mort en 88. Non. Alors Vivica, merci infiniment. J'ai envie qu'on se quitte avec du Rossini en français, pas Marilyn Horn. Alors la poésie est une affreuse poésie.
Vous m'avez dit.
Mais je trouve. Je trouve que Marilyn Horne chantant du Rossini dans un français totalement conventionnel, mais c'était juste pour se dire au revoir. Mais les auditeurs vous retrouvent toute la journée sur France Musique. Merci infiniment d'être
merci
avec nous.
Merci.
Et welcome quand vous revenez.
Thank you.
Ne m'y suivez pas, dit Casimir de Lavigne, qui n'est pas le plus grand poète français du 19e, mais Rossini, même quand il écrit de cette manière, est tout à fait confondant. C'était Marilyn Horne. Mais nous, les producteurs, et vous, les auditeurs de France Musique, nous allons suivre Vivi Cageneau tout à l'heure, et puis encore beaucoup d'autres fois, certainement. Nous étions ce matin en compagnie de José Bernès, Sylvain Richard, Charles Barjou, Xavier Carrère, qui nous surveille d'en haut du 7e étage, et Véronique Kerdiles,